Figaro Radio.
Le club, le Figaro International.
Philippe Gély.
Depuis 50 jours, Israël et Gaza ont de nouveau plongé dans la guerre et le drame, avec une violence inouïe de part et d'autre. Il a beaucoup été question dans les médias et dans les discours politiques du droit d'Israël de se défendre, de riposter aux terribles tueries commises par le Hamas le 7 octobre. Les opinions publiques occidentales se sont aussi fortement mobilisées aux côtés des Palestiniens, en particulier des victimes civiles des bombardements israéliens à Gaza. Alors dans cette émission, nous avons essayé au fil des semaines d'éclairer les différents aspects de ce conflit ancien, complexe et sanglant. Aujourd'hui, nous allons examiner la guerre à Gaza du point de vue palestinien. Quelle est la situation dans l'enclave? D'où viennent les massacres commis le 7 octobre? Quel avenir possible pour la Palestine? Nous en parlons sans plus attendre avec mes invités. Anouar Abouaïcheh, vous êtes ancien ministre de la Culture de l'Autorité palestinienne, vous êtes professeur de droit, vous avez enseigné à l'Université Al-Quds, vous avez également été expert auprès de la Commission européenne et de l'UNESCO, et vous êtes considéré comme une voix pacifiste, modérée, partisan d'une paix juste avec Israël. Vous avez écrit vos mémoires sous le titre « Parcours d'un militant palestinien, de chauffeur de taxi parisien à ministre de la Culture ». C'est paru en 2017 aux éditions de la Croisée des Chemins. Karim Khatan, vous êtes un écrivain palestinien né à Jérusalem, docteur en littérature comparée, vous écrivez en anglais et en français, et vous avez publié deux livres au titre remarquable, Préliminaires pour un verger futur, recueil de nouvelles paru en 2017 aux éditions Elizade, et puis un roman, Le palais des deux collines, paru en 2021 chez le même éditeur, un livre qui a été lauréat du prix des cinq continents de la francophonie. Joanne Deaz, vous êtes directrice exécutive de l'IREMO, l'Institut d'études et de recherche Méditerranée-Moyen-Orient. Vous êtes également doctorante en sciences politiques à Sciences Po Grenoble. Vos recherches portent sur les positions diplomatiques de l'Inde, du Brésil et de l'Afrique du Sud dans le processus du conflit israélo-palestinien. Vous avez aussi travaillé auprès d'ONG dans les territoires palestiniens et vous avez notamment vécu à Gaza. Cyril Louis, vous êtes grand reporter au Figaro, rédacteur en chef adjoint du service international. Vous avez notamment été notre correspondant à Jérusalem de 2013 à 2018 et vous venez d'effectuer un reportage de plusieurs semaines en Israël et dans les territoires palestiniens après l'attaque du Hamas du 7 octobre. Alors commençons d'abord par la situation présente à Gaza. Nous sommes au terme de quelques jours de trêve, avec la possibilité de le prolonger. Est-ce qu'il faut croire à l'espoir d'un cessez-le-feu, selon vous, Anouar Abouaïcheh ?
Nous perdons jamais l'espoir. Nous espérons vraiment que c'est le début d'une trêve, de long cessez-le-feu, pour qu'il y ait le début de processus plutôt politique qu'autre chose. Jusqu'à maintenant, les déclarations du gouvernement israélien sont contradictoires et surtout qui ne promet pas une situation pacifique. C'est dommage, mais nous espérons que ça va durer.
Mais Israël n'a pas atteint ses buts de guerre, quels qu'ils soient. D'ailleurs, on peut en discuter. Mais donc vous, Karim Khatan, vous croyez à la possibilité d'un cessez-le-feu à ce stade ?
Je ne m'avancerai pas, en fait, parce que je pense qu'on est dans un moment long, hein, depuis 50 jours, où on ne peut pas vraiment deviner ce qui va se passer. Mmh. Je rejoins un peu Anouar, c'est-à-dire que j'espère qu'on peut entrer dans une phase de résolution d'une autre manière, mais je ne sais pas ce que demain va apporter du tout. Je ne me sens pas en position de pouvoir évaluer la réalité.
Pour l'instant, dans la tractation, dans le marchandage des otages, est-ce que, Joanne Deaz, est-ce que vous diriez que le Hamas est plutôt maître du jeu ?
Alors, maître du jeu, c'est difficile à dire. En tout cas, le Hamas a intérêt à ce que la trêve se poursuive, hein, pour reconstituer ses forces, et a intérêt à faire traîner dans la durée la crise des otages et le relâchement des otages au fur et à mesure, puisque c'est sa dernière et sa seule monnaie d'échange à l'heure actuelle. Et la trêve, plus elle va durer, en tout cas c'est probablement l'un des calculs politiques du Hamas, plus la trêve va durer, plus ça va être compliqué pour Israël de reprendre les combats à la même intensité que ce qui a été connu avant, parce qu'on a une opinion publique internationale qui va probablement faire pression pour que ça ne se produise plus, et il va y avoir une perte de dynamique, et il va y avoir également l'opinion publique israélienne qui va, si tous les otages ne sont pas libérés et que les combats reprennent avec la même intensité, qui va probablement faire d'autant plus pression sur le gouvernement israélien que certains des otages seront déjà libérés et pas tous. Voilà.
Ouais. Cyril Louis, c'est aussi votre analyse ou...
Bah, le sentiment qu'on a, c'est qu'on a d'un côté un gouvernement israélien qui martèle que cette trêve n'est qu'une trêve et qu'Israël n'a pas terminé sa guerre. L'armée israélienne a provoqué des dégâts considérables dans la partie nord de la bande de Gaza, possiblement infligé des dommages significatifs à l'appareil militaire du Hamas.
Oui.
Les bombardements ont été plus limités, même s'ils ont été très intenses dans le sud. Et donc, du point de vue israélien, on pourrait dire qu'une partie seulement de leur objectif a été remplie. Il y a sans doute une forte pression dans l'opinion israélienne pour poursuivre jusqu'au bout cette opération militaire. Mais d'un autre côté, c'est vrai que la pression internationale s'accroît et va s'accroître. Les Qatariens ont clairement affiché, ils sont la clé de des négociations pour la libération des otages, et ils ont clairement dit qu'ils voulaient construire la possibilité d'un cessez-le-feu durable sur cette trêve de quelques jours. La France a elle-même demandé un cessez-le-feu. Et on peut s'attendre à ce que dans les jours qui viennent, et d'autant plus que le processus de libération des otages va s'étirer dans le temps, on peut s'attendre à ce que la pression internationale s'accroisse sur Israël. Ouais.
Donc c'est en gros, si je vous comprends bien les uns et les autres, le jeu politique du Hamas en l'occurrence, c'est d'utiliser les otages pour faire durer la trêve, de sorte que la reprise des combats devienne de plus en plus compliquée. Vous partagez ?
La population palestinienne à Gaza, surtout, nous savons qu'il y a encore des centaines, voire des milliers de cadavres sous les décombres. Nous avons beaucoup de blessés qui n'ont plus de médicaments. Il y a toujours...
On parle de 30 000 blessés, 13 000 morts, 30 000 blessés.
Oui. Donc, c'est surtout la population qui a besoin de paix, un peu de tranquillité pour recommencer à vivre.
On va dire un mot de la situation humanitaire qui est catastrophique à Gaza. On a quelques cartes qui montrent à la fois les bombardements, les destructions. Vous avez des chiffres, je crois, Joanne.
On a quelques chiffres qui montrent peut-être la magnitude, en fait, hein, de niveau de destruction de la bande de Gaza. Selon les chiffres de l'ONU les plus récents, on a 60% de la totalité des habitations de la bande de Gaza qui sont soit totalement, soit partiellement détruites.
C'est pas un chiffre qui s'applique surtout au nord, ça ?
60% de l'intégralité de la bande de Gaza.
De l'intégralité ?
Absolument. Donc, parce qu'en fait, on pense
que... C'est des sources ONU, c'est quoi ?
C'est des sources de l'OCHA, l'Office de coordination des affaires humanitaires de l'ONU, qui les publie tous les jours. Et donc 60% parce qu'on a tendance à penser que la zone de guerre se situe uniquement dans le nord de la bande de Gaza. C'est faux. C'est-à-dire que les bombardements... arrive également dans le sud et il n'y a pas de zone sûre. Donc on est à 60% de destruction, ce qui est absolument énorme. En termes du niveau de tonnes de bombes qui ont été lâchées par Israël sur la bande de Gaza, on parle de plus de 25 000 tonnes de bombes, à savoir deux fois Hiroshima, en un mois, à savoir qu'en contrepartie, si vous regardez...
Cette comparaison est quand même discutée par les experts.
Il n'y a pas de radiation. Mais en termes de kilowatts de bombes, c'est quand même ça en termes d'explosifs qu'on a. Mais si vous voulez comparer avec des choses comparables, en un an en Afghanistan, les Américains avaient largué 6 900 tonnes de bombes en un an. Donc on en est à 50 jours de combat. On en est à beaucoup plus. Et nous avons une situation absolument catastrophique d'un point de vue humanitaire. Les ONG ont alerté sur un début de famine. Il n'y avait plus d'eau. La consommation d'eau avant la trêve est tombée dans la population gazaoui à 3 litres par jour et par personne. En contrepartie, si vous voulez juste avoir un exemple, c'est 250 litres par jour et par personne aux États-Unis qui est consommé. Donc 3 litres par jour et par personne, c'est absolument insuffisant. Nous avons des témoignages fiables de gens qui boivent de l'eau de mer et de l'eau saumâtre des puits agricoles pour pouvoir réussir à avoir la consommation d'eau.
Il faut dire que les camions n'entrent pas, les camions d'aide humanitaire. Normalement, il en faut 500 par jour. Et là, le maximum qui a été atteint la semaine dernière, c'était 140 sur un jour.
C'est ça.
On est retombé à 30 ou 40.
Absolument.
Exact. Ouais.
C'est beaucoup trop peu, c'est beaucoup trop peu. Et surtout, jusqu'à la trêve, les camions humanitaires et l'aide humanitaire n'avaient plus accès au nord du tout. Donc, on savait que les conditions étaient absolument catastrophiques en termes humanitaires, déjà dans le sud de la bande de Gaza, avec des refuges de l'ONU qui sont à 9, voire 10 fois leur capacité normale. Donc, vous avez par exemple un refuge de l'ONU, c'est des salles de classe, en fait. Vous avez plus de 90 personnes qui dorment dans une seule salle de classe. Vous avez une douche qui est partagée par 700 personnes. Vous avez un toilette pour 170 personnes. Et vous avez le début de maladies contagieuses qui sont en train de se propager, la diarrhée, des poux, des maladies respiratoires aiguës. On a peur que le choléra revienne. Vous avez donc une situation extrêmement grave qui va se détériorer encore plus dans la durée. Et surtout que vous n'aviez pas, jusqu'à présent, là ça vient de changer avec la trêve humanitaire, vous n'aviez pas de fioul qui rentrait. Vous n'aviez pas d'essence, en fait. Donc, vous n'avez plus d'électricité, pas d'essence, donc les hôpitaux ne pouvaient plus fonctionner. Les moulins qui servent à moudre le blé pour faire du pain ne fonctionnaient plus non plus. Les boulangeries ne fonctionnaient plus. Donc, vous étiez dans une incapacité de produire de la nourriture, en fait, et d'opérer. Les opérations, apparemment, dans les hôpitaux, se font à la lumière des smartphones, en fait. Donc, c'est extrêmement grave.
Et surtout les cadavres se décomposent partout. Que ce soit sous les décombres ou dans les rues.
Karim, pardon, vous avez vous aussi des témoignages directs des gens qui vous appellent, vous parlez à...
Oui, absolument. Et je pense qu'une chose que tu illustres bien et qu'on n'a pas forcément en tête quand on regarde la situation de l'extérieur ou de très loin, c'est ce qui se passe dans la durée. À savoir que une auditrice ou un auditeur va voir qu'il y a tant de morts, va penser que tant de morts et tant de blessés, c'est en effet un temps d'honnêteté. En réalité, la destruction d'infrastructures, elle ne va pas se régler dans 3 jours, ni peut-être pas dans 3 mois. C'est-à-dire qu'on est aussi dans une destruction de gens et de personnes qui se déroule sur le très long terme. Et ça, je trouve que c'est un vrai défi de faire comprendre ça. C'est pareil pour le chiffre de blessés, c'est terrible, j'allais dire intéressant, c'est surtout terrible. C'est-à-dire qu'un blessé, quand on lit blessé, c'est un spectre de réalité très différent. Dans les blessés, il y a aussi des mutilés. En fait, il y a des gens sur lesquels l'impact est vraiment sur un très très long terme. Oui. C'est-à-dire que la destruction qui est en place à la fois des infrastructures, des hommes et des femmes et des enfants, et de la pensée, en fait, parce qu'avec tout ça, ce qui meurt, c'est une pensée et un corps politique et culturel palestinien. Quand on oubliera tout ça dans 6 mois, cette destruction, elle sera encore là, elle sera encore active. Je pense que c'est quelque chose qui vraiment est très important de comprendre. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans le temps T, mais dans le temps très long.
Disons un mot des écoles, des hôpitaux qui sont pris pour cible par Israël, mais qui sont de facto utilisés par le Hamas aussi pour se protéger derrière des civils.
C'est pas prouvé, à ma connaissance. Enfin, quand on voit...
C'est à peu près bien documenté, quand même. On a vu des tunnels sous l'hôpital Al-Shifa et ailleurs.
Ben non, on n'a pas vu. Moi, je n'ai pas vu.
Non ? Vous ne croyez pas ?
Je n'ai pas vu, moi.
Vous n'avez jamais entendu parler de ça ?
On a parlé d'un tunnel. Ehud Barak, qui était Premier ministre, il a dit « C'est nous qui l'avons construit quand on était à Gaza. » Bon.
Mais alors,
vous avez une opinion là-dessus ?
Non, mais c'est dans une interview à la télévision. En tout cas, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup de propagande israélienne ou de la matière, que parfois, on ne sait pas le vrai de faux.
Joanne, vous vouliez dire là-dessus ?
Je n'ai aucune donnée à avancer pour savoir, parce que je n'y suis pas, pour savoir si le Hamas se cache sous les hôpitaux ou pas. Probablement, il doit y avoir des tunnels sous les hôpitaux.
Il existe des tunnels, on est déjà d'accord là-dessus.
Il y a des tunnels, il y a un réseau de tunnels, absolument.
Il y a eu un documentaire réalisé par un journaliste palestinien envoyé par le Hamas pour être filmé dans les tunnels.
On est d'accord, mais on n'est pas sûr qu'il y en avait un.
Existe-t-il des tunnels ? Oui. Est-ce que c'est une raison et une circonstance atténuante pour bombarder des hôpitaux ? Non. C'est-à-dire qu'on a quand même un droit international humanitaire qui sacralise...
Sur l'hôpital Al-Hali, apparemment, les explosions étaient causées par... La thèse israélienne, c'est qu'il y avait des caches d'armes qui ont fait que le missile tiré par le djihad islamique, apparemment, est tombé sur une cache d'armes et qui aurait déclenché cet incendie.
on est en train de parler. Alors là, on parle de l'hôpital Al-Ahli, mais vous avez. Alors attendez, j'essaie de retrouver les chiffres. Le nombre d'hôpitaux et de structures médicales qui ont été visées par les bombardements, qui ont été atteintes par les bombardements. Vous avez également des refuges de l'ONU qui ont été atteints par les bombardements. Vous avez des dizaines de civils déplacés internes qui prenaient refuge
dans ces
bombardements.
En droit de la guerre, les deux sont interdits, n'est-ce pas ? Utiliser les hôpitaux pour se protéger et attaquer les hôpitaux.
Absolument. Les deux. Les hôpitaux sont censés être un endroit sacralisé dans le droit international humanitaire.
Mais ils ne le sont pas. Vous le savez comme moi.
Vous n'êtes pas censé avoir le droit d'utiliser des hôpitaux et des civils pour vous protéger, comme vous n'avez pas le droit de bombarder des hôpitaux en temps de guerre. C'est un crime de guerre. On se retrouve dans une situation où...
On n'est sûr de rien. On ne voit pas. On est sûr de rien, mais vraiment, quand c'est on examine bien...
Au-delà d'être sûr de rien, je pense que si on en arrive au moment où on doit débattre pour justifier qu'il ne faudrait peut-être pas bombarder des hôpitaux et des écoles, on est vraiment au bord d'un naufrage moral terrible. Je pense qu'il faut aussi s'en rappeler.
En fait, Israël a déployé des efforts assez considérables pour essayer de démontrer que le Hamas avait son quartier général ou l'un de ses quartiers généraux en dessous, dans les entrailles de l'hôpital Shifa. Ils ont emmené des journalistes, ils ont mené des fouilles. Ce qu'on peut dire, c'est que ce qu'ils ont été en mesure de montrer n'est pas à la hauteur du tableau qu'ils avaient tracé avant d'en prendre le contrôle. Et c'est crucial pour eux parce qu'en fait, donc les hôpitaux sont protégés, sanctuarisés par le droit humanitaire international. Et le droit humanitaire dit que cette protection peut être levée s'il est prouvé que ces infrastructures sont utilisées à des fins militaires. Et dans ce cas-là, il y a une question de proportion entre les destructions qui sont infligées à l'hôpital. En l'occurrence, l'hôpital Al-Shifa, d'après ce qu'on comprend, est devenu complètement inutilisable. C'était le principal hôpital de la bande de Gaza. Ouais. Et le gain militaire que l'on peut accomplir en menant ces frappes. Alors qu'il est, on n'a pas le sentiment que les éléments de preuve apportés par l'armée israélienne soient à la mesure du préjudice subi par l'infrastructure hospitalière dans la bande de Gaza depuis 50 jours. Mais c'est vrai que tout ça est très flou, qu'il y a une guerre des images, une guerre de propagande.
Qui s'entrechoque.
Voilà.
Ouais. Est-ce que, si on fait le compte des destructions, de la situation humanitaire terrible, mais aussi de l'avantage que peut avoir le Hamas dans la négociation actuelle sur les otages, vous diriez que le Hamas est gagnant ou perdant dans cette affaire ?
Tout le monde est perdant.
Tout le monde est perdant.
Moi, quand il y a 15 000 martyrs...
Y compris le Hamas en tant que mouvement politique.
Tout le monde est perdant.
Parce que les civils sont tous perdants.
Parce que tous les civils qui ont été tués, ça fait que tout le monde est perdant. Nous ne sommes absolument pas pour la mort des civils, quels que soient les civils, israéliens ou palestiniens.
Mais le Hamas savait à quelle riposte il pouvait s'attendre, après les attaques du 7
octobre. Il faut leur poser la question. En tout cas... Il faut leur poser la question. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est très triste pour tout le monde. Mais moi, je crois que si on approche la question fondamentale, surtout, moi, je crois que si on ne peut pas parler de 7 octobre et ce qui s'est passé ce jour-là, sans parler de 75 ans...
On va y venir sur d'où vient le massacre. Mais là, quand même, avant de passer à ce point-là, vous estimez, Johan, que le Hamas peut être gagnant dans cette affaire ou d'une certaine manière, politiquement, même si c'est cynique ?
Gagnant par rapport à quoi et par rapport à quel objectif ?
Par rapport à l'autorité palestinienne, par rapport à Israël ?
Alors, clairement, le Hamas était en ballotage défavorable dans la bande de Gaza parmi la population avant le 7 octobre. Mais cette offensive et ce qui se passe... En fait, c'est extrêmement difficile de répondre à cette question, en fait. Donc, je ne sais pas si... Enfin, j'ai vraiment très envie d'y répondre parce que je ne sais pas s'il faut qu'on réfléchisse en termes de gagnants, perdants. Tout ce que je sais, c'est qu'après le 7 octobre, avec 50 jours d'offensive, est-ce qu'Israël est en train de se mettre davantage en sécurité et d'assurer sa sécurité ? Je ne suis pas sûre. Est-ce que le Hamas est en train de consolider sa base ? Je ne suis pas sûre non plus. En fait, tout ce que je sais, c'est qu'on est dans une logique mortifère qui qui est issue d'une fabrique de la colère, une fabrique de la violence, et on est dans une incapacité d'un côté comme de l'autre de sortir du paradigme sécuritaire pur de court terme, du paradigme vraiment militaire en fait, à la fois du côté du Hamas que du côté israélien. Ouais. Les Israéliens sont enfermés dans une logique, presque une doctrine sécuritaire, qu'on appelait aussi en partie la doctrine Netanyahou, qui voit ça à travers un angle sécuritaire et qui n'envisage pas d'une solution politique de long terme, alors que c'est la solution politique qui sera la seule à même de pouvoir assurer la sécurité d'Israël.
Karim Katan, sur ce point-là ?
Je ne m'avancerai pas aussi sur la question de gagnant ou perdant, parce que je pense que je ne suis pas politiste et je ne me sens pas à même, encore une fois, de juger à un moment T donné d'urgence qui gagne et qui perd et en quelles circonstances. Mais enfin, je vous rejoins tous les deux, en fait, en la manière dont vous avez poser les bases de la question, mais je ne m'avancerai pas plus.
La question est perverse.
Non, mais même je me demande si c'est une question à laquelle on peut répondre aujourd'hui. Je me demande si.
Est-ce qu'on a assez de vision. C'est clairement dans un rapport de force politique avec l'autorité palestinienne.
Est-ce qu'on peut répondre à la question aujourd'hui ? Je ne suis pas sûr.
Cyril Louis, votre avis ?
Je pense qu'il est très tôt. Ce qui me frappe, moi, en tout cas, c'est qu'il y a une conséquence de cette séquence, de cet engrenage amorcé par les massacres du 7 octobre et immédiatement poursuivi par la campagne de bombardement et l'opération au sol d'Israël. C'est que le conflit israélo-palestinien a été remis au centre de la scène internationale, de la conversation. Ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est mis en branle pour les habitants de la bande de Gaza, quelque chose dont il est difficile de prendre la mesure, je pense, à distance, mais que les gens avec qui on est en contact nous racontent, qui est le sentiment d'une seconde Nakba, une seconde catastrophe, en écho à ce qui s'est passé en 1948 au moment de la création de l'État d'Israël. D'une part, par la violence sans précédent de la campagne militaire israélienne, c'est-à-dire que moi j'ai des amis qui vivent dans la ville de Gaza, qui ont subi les guerres de 2008-2009, les guerres de 2012, la guerre de 2014, la guerre de 2021, et qui ont donc une certaine habitude et une certaine résilience, qui savent ce que c'est que des bombardements israéliens, qui ont appris à vivre avec ça et qui me disent ce qui se passe là est sans commune mesure avec tout ce qu'on a connu. Ça, c'est une première chose. Et le niveau de destruction, notre correspondant à Jérusalem a pu se rendre dans la bande de Gaza en fin de semaine dernière avec l'armée israélienne. Il connaît bien la bande de Gaza et il nous a décrit des scènes de destruction et de désolation absolument incroyables. Et la seconde chose dont les gens à qui je parle me témoignent, c'est la sensation d'une nouvelle humiliation, d'un nouveau déplacement. Le spectre d'un déplacement vers l'Égypte, qui pour l'instant ne se matérialise pas parce que la frontière de Rafah est fermée, est très fort dans les esprits. Les gens ont peur d'être poussés, d'être chassés vers l'Égypte. Ils ont peur de scènes d'humiliation qui leur rappellent 1948. Des campements de tentes ont été aménagés dans le sud de la bande de Gaza, le long de la mer. Mm-hmm. Et ce sont des images qui provoquent des réminiscences très, très, très puissantes. Donc il se passe là quelque chose qu'on ne fait que deviner à distance, mais qui sera probablement très important dans les années et les décennies à venir.
Ouais. Vous ajoutez juste une phrase. Oui. Cette politique sécuritaire israélienne est basée sur la vengeance et la punition collective. Et ça complique tout. Ça nous fait beaucoup, beaucoup de victimes civiles.
L'objectif militaire de détruire les infrastructures militaires et politiques du Hamas, vous n'y croyez pas ?
Ce n'est pas encore touché. Pendant 50 jours, on n'a pas vu une structure de Hamas qui a été affaiblie. Est-ce que vous avez vu ça ? Il n'y en a pas.
Ils sont passés entre les mailles du filet.
Partir, ils ont déplacé la population de moitié nord de Gaza, mais on n'a pas constaté via les télévisions.
Alors pour vous, c'est quoi le but de guerre d'Israël, si ce n'est pas d'éliminer...
C'est que Netanyahou retourne au pouvoir. C'est que Netanyahou reste... Oui. Non, mais qu'il retourne après. Parce que...
Est-ce que c'est de déplacer les populations de manière définitive ?
C'est clair, ils le disent clairement. D'ailleurs, déplacer la population de Gaza, ça a été dans l'idéologie politique israélienne depuis les années 50. Jusqu'à maintenant, plusieurs fois, ça a été... évoqué jusqu'à maintenant.
Enfin, certaines mouvances israéliennes, pas de toutes.
Dans la politique israélienne, en tout cas jusqu'à maintenant, il y a des ministres au gouvernement israélien qui réclament le départ des Palestiniens de Gaza vers le Sinaï.
Alors justement, les Égyptiens ne veulent surtout pas que ça se produise, les Jordaniens non plus. Est-ce que la solidarité arabe, selon vous, est à la hauteur dans cette crise ?
la solidarité populaire arabe est à la hauteur de la Nakba palestinienne depuis son existence.
Ouais.
Maintenant, les régimes arabes, il y a des régimes arabes qui ont pour première préoccupation de plaire aux Américains.
Mmh.
Et quand on veut plaire aux Américains, on ne peut pas prendre... Ou une bonne partie, nous les connaissons, nous les savons. Bon. Et donc, ils ne peuvent pas trop fâcher le système américain ou Biden. Donc oui,
les Égyptiens et les Jordaniens, vous leur savez gré de ne pas vouloir favoriser un exode définitif des Palestiniens de Gaza.
Ah oui, bien sûr, mais de toute façon, ça dépend toujours de la
volonté. Et les Américains s'opposent aussi à cette politique-là.
Du bout de lèvres. Mais la réalité, c'est surtout nous, les Palestiniens, vous interviewez les Palestiniens, ils disent qu'on a vécu une première Nakba en 1948, on ne veut pas vivre une deuxième Nakba en...
Je rappelle, c'est la catastrophe. Johan, vous vouliez ajouter quelque chose ?
Deux choses à ajouter. Une première chose juste par rapport à l'Égypte, qui refuse d'avoir une seconde Nakba sur son sol, ce n'est pas l'unique raison pour laquelle l'Égypte ne veut pas avoir de transfert de la population palestinienne de Gaza dans le Sinaï. La deuxième raison, c'est également qu'elle... elle n'a pas du tout envie d'avoir une base arrière du Hamas et du djihad islamique sur son sol, parce qu'il faut rappeler que Al-Sisi, qui est au pouvoir en Égypte, a pour ennemi juré les frères musulmans, et que les frères musulmans sont la
maison mère du
Hamas. Deuxième chose que je voulais rajouter par rapport aux États de la région, c'est qu'il faut faire une distinction claire entre les États et les sociétés. La Palestine, pour les sociétés du monde arabo-musulman, c'est le cœur battant de l'identité de ces sociétés. C'est quelque chose qui fait corps, qui réunit. C'est un ciment identitaire très fort. Et il y a une pression qui a toujours été très forte de la part des opinions arabes sur leur gouvernement, qui avait été un petit peu moins de ces derniers temps, puisqu'on a vu une vague de normalisation des relations entre les États arabes, de plus en plus d'États arabes, et Israël. L'Arabie saoudite était celle qui était la prochaine sur la liste. On était sur le point d'avoir la signature d'un accord qui aurait été absolument historique entre Israël et l'Arabie saoudite. Ce n'est absolument plus possible à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, ce n'est plus possible. On avait une marginalisation de la question palestinienne ces dernières années dans l'agenda des États arabes, dans l'agenda de manière générale internationale. Ça vient de nous montrer encore l'inextricabilité de la centralité de la question palestinienne qui fait que, voilà, on a un déraillement de ce processus de normalisation qui va probablement mettre un petit peu de temps avant de pouvoir revenir sur le devant de la scène. Mais il faut vraiment bien distinguer effectivement les États arabes qui, eux, poussent plutôt pour une normalisation avec l'État d'Israël et les opinions arabes qui, elles, n'y sont pas du tout favorables.
Alors vous disiez que la question palestinienne a été spectaculairement remise au centre du jeu. C'était aussi le sens de ma question sur est-ce que le Hamas est gagnant, parce que finalement c'est à son crédit qu'on met le retour de la question palestinienne sur le devant de la scène. Cyril Louis, quand les événements du 7 octobre se sont produits, vous êtes un observateur comme nous de ce qui se passe là-bas, vous connaissez la région, est-ce que vous avez été surpris, choqué, est-ce que vous imaginiez que ça puisse prendre ces proportions-là ?
Oui, j'ai été surpris, choqué, non, je m'attendais à rien de cette nature. Et comme beaucoup de gens, pardon, Anouar, j'avais fini par considérer qu'il existait une possibilité pour qu'Israël gagne son pari d'éteindre ce conflit à petit feu, à la faveur d'alliances. On vient d'en parler avec un certain nombre de pays arabes, saucissonnant au fil des décennies la question et la population palestinienne entre différents territoires dont les problématiques deviendraient différentes. Israël s'est désengagé de la bande de Gaza en 2005. Je ne l'ai pas vu venir, c'est certain. En même temps, quand je réfléchis un peu à ce que j'ai observé quand j'étais correspondant à Jérusalem et j'allais très régulièrement à Gaza, je ne peux que me reprocher de ne pas l'avoir vu venir, parce qu'il y avait en effet un certain nombre d'ingrédients qui sont réunis depuis très longtemps. On l'a dit et répété, c'est de 2,3 millions de personnes qui sont enfermées sur un territoire minuscule, qui n'ont pas accès à la mer, qui ne peuvent pas sortir de leur pays.
Paradoxalement, ils n'ont pas accès à la mer, ils ne peuvent pas utiliser la mer qui est au bord de la bande de Gaza.
Dans des conditions extrêmement
restreintes. Ils ont accès, mais dans un...
On ne cessait de décrire une cocotte minute dont on avait fini par croire qu'elle avait vocation à ne jamais exploser.
Karim Khatan, votre réaction le 7 octobre quand vous apprenez ce qui se passe?
Oh ben c'était le mot que j'utilise depuis deux mois, c'était la sidération, et puis la peur de tout, du fait qu'on entrait dans quelque chose qui pour moi relevait en fait effectivement peut-être de l'inimaginable, pas au sens... Nous, on savait que ça allait exploser. On le savait. Enfin, je veux dire, il suffit d'être n'importe où en Palestine pour savoir que la situation est complètement intenable. Mais je n'ai jamais imaginé que c'était de cette manière-là, dans cette manifestation-là.
Vous avez été surpris par la rage qui s'est exprimée ce jour-là ?
Partout, juste par ce qui se passe, par le fait même que ce soit possible, oui. Par la manière dont ça s'est exprimé, par les mécanismes mis en place, enfin, tout était sidérant, et j'utilise le mot sidérant vraiment à bon escient, c'est-à-dire que je suis entré, c'est pour ça que souvent je dis que je ne sais pas répondre à certaines questions, c'est juste parce qu'on est entré dans quelque chose dont les paramètres me semblent à la fois assez familiers, on est quand même, enfin je veux dire, on est dans un continuum de violence depuis très longtemps, mais en même temps avec des paramètres nouveaux que je n'ai pas l'arrogance de prétendre savoir analyser. Donc on est vraiment entré dans, à la fois, c'est très curieux, à la fois quelque chose d'inimaginable, et en même temps qui s'inscrit dans la continuité un peu d'une question plus générale. Et je suis vraiment pris entre ces deux manières imbriquées de comprendre la situation.
Johan Deas, vous avez... tout le monde sait que ça pouvait exploser. La cocotte minute, on la connaît tous. Vous avez été surprise par le degré de rage, la violence de ce qui a été commis. Il y a quand même, il faut le rappeler, eu des massacres atroces. Des enfants, des femmes violées, des...
J'ai été... je pense qu'on a été d'autant plus sidérés et surpris que ça fait 75 ans qu'Israël a une stratégie de maintenir quand même le niveau d'intensité du conflit à un niveau de ce qu'on appelle de basse intensité, en fait. Donc, c'est-à-dire que la question de la violence physique...
avec des éruptions régulières.
Avec des éruptions régulières, notamment
à Gaza. Qui sont le prix à payer pour maintenir le conflit sans solution,
Qui font partie, effectivement, d'une stratégie pour maintenir le niveau de menace stratégique et militaire à un niveau acceptable pour l'État d'Israël. Donc, on n'a pas l'habitude de voir un niveau de violence physique directe de très haute intensité. En tout cas, ça faisait très longtemps que ça n'était pas arrivé à ce stade-là. Par contre, depuis 75 ans, on a tendance à penser qu'il y a plusieurs types de violences. On a toujours tendance à penser et à réagir au type de violence le plus visible, à savoir la violence directe. Il y a deux autres violences dont on ne parle jamais, c'est la violence structurelle et la violence culturelle. Ce que Johan Galtung, qui est un théoricien de la violence et du conflit, appelle le triangle de la violence, en fait. La violence culturelle et la violence structurelle... contrairement à la violence physique, ça n'a pas été une violence de basse intensité pour Israël, puisqu'elle est exercée à un niveau de très haute intensité sur les territoires palestiniens depuis 75 ans. Cette violence-là, on en parle assez peu et on en parle trop peu, et cette violence-là, elle est fondamentale pour comprendre pourquoi ça a explosé le 7 octobre.
Comprendre, justifier ?
Justifier, non, absolument. En fait, absolument pas. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est inexcusable. Inexcusable. Par contre, c'est pas inexplicable. C'est deux choses extrêmement différentes.
D'accord.
Comprendre, ce n'est pas excuser.
Ok.
Donc, voilà, je pense que si on ne comprendra pas le niveau de violence structurelle qui est à l'œuvre dans les territoires palestiniens occupés, on ne comprendra jamais pourquoi est-ce que cette éruption de violence a eu lieu.
Anouar Bouaïché, vous m'avez dit tout à l'heure...
J'ai été très surpris.
Oui.
Je crois que beaucoup de monde autour de moi, on était très surpris. On savait que ça peut exploser à tout moment... pas de cette ampleur, et jusqu'à maintenant, je crois qu'il y a beaucoup de choses que nous ne savons pas, et que nous ne saurons que dans quelques années. Comment ça se fait qu'un mur qui a coûté des milliards, où un cafard ne peut pas traverser, tombe en panne en quelques minutes. Jusqu'à maintenant, personne n'a expliqué.
On sait comment... ils ont utilisé des drones, ils ont neutralisé les postes de surveillance.
Est-ce que Hamas a ce pouvoir... De brouiller tous les écrans de l'armée israélienne.
Vous n'êtes pas en train de me dire qu'ils ne l'ont pas fait.
Il doit y avoir une force divine qui était là pour les aider à bien brouiller les écrans d'ordinateur. Moi, je crois, en tout cas, je ne sais pas, et je crois qu'il y a beaucoup de mystères où nous aurons peut-être les réponses dans quelques années. En tout cas, c'était très surprenant que ça arrive avec cette ampleur-là, ce jour-là. Mais on pouvait avoir imaginé des explosions tout le temps, parce que nous sommes tellement frustrés de l'occupation militaire coloniale depuis de longues années, qu'on pouvait s'entendre à tout.
Est-ce que la cruauté qui s'est manifestée le 7 octobre délégitimise d'une certaine manière la cause palestinienne ?
Il y a eu de tout. Nous, l'OLP, nous condamnons toute mort de civils, toute agression contre tout civil. Maintenant, tous les peuples sous occupation ont le droit à résister contre les militaires de l'armée de l'occupation. Voilà. Mmh.
Qu'est-ce que vous faites du fait qu'aujourd'hui, en Cisjordanie, il y a de plus en plus de jeunes qui se réclament du Hamas, qui, y compris de membres du Fatah qui se battent avec les gens du Hamas, alors que l'autorité palestinienne a perdu énormément d'autorité et de crédit? Est-ce que ça vous inquiète, cette situation? Comment vous voyez la situation?
Je ne suis pas inquiet de tout, mais je vais expliquer. D'abord, l'autorité a perdu d'autorité, et j'en fais partie, et on est beaucoup moins populaire parce qu'Israël nous a empêchés d'avancer dans un processus de paix. Donc nous, l'autorité...
Et parce qu'il y a un dirigeant qui est là depuis 18 ans, sans élection...
Eh bien justement, Israël aussi nous a empêchés de faire des élections, comme vous le savez.
À Jérusalem-Est, oui.
À Jérusalem-Est, et moi, j'accepte pas qu'on fasse dans le territoire occupé des élections générales sans Jérusalem-Est, parce que ça veut dire que j'accepte l'annexion de Jérusalem. Maintenant, je reviens. Sachez qu'actuellement, il y a entre 5 et 10 morts par jour en Cisjordanie, et qu'il y a tous les matins, j'ai la liste tous les matins, c'est sur les groupes de WhatsApp, on a une cinquantaine de Palestiniens qui sont arrêtés toutes les nuits, et on les met dans une détention administrative, c'est-à-dire sans accusation, sans procès, et on les garde, on renouvelle l'emprisonnement de 6 mois en 6 mois. Donc, maintenant, les gens font corps, l'homme de la rue partout fait corps à Hamas, tout simplement parce que l'attaque israélienne, le bombardement israélien à Gaza, ne font pas la différence entre un civil lambda ou un civil communiste et un Hamas. Le bombardement...
Est-ce que l'autorité palestinienne est en danger de ce fait, de disparaître ou d'imploser ?
Juridiquement, non.
Oui, mais enfin, politiquement,
non. Mais politiquement, nous avons besoin, ce qui peut nous sauver, c'est faire des élections générales, y compris avec Jérusalem-Est. Ça sauve tout le monde, ça éclaircit les choses, et ça résout même les problèmes avec Israël.
Donc, mais moi, il n'est pas exclu que le Hamas les remporte, n'est-ce pas, à ce moment-là?
On verra bien. Ouais. Laissons le peuple palestinien décider.
Mm-hmm. Cyril Louis, est-ce que vous avez été surpris par la rapidité du basculement des opinions publiques en Europe, aux États-Unis, qui ont été évidemment sidérés, comme l'a dit Karim tout à l'heure, le 7 octobre par ce qui s'est passé, mais qui, presque 5-6 jours plus tard, défilaient déjà en soutien aux Palestiniens? Est-ce que c'est quelque chose d'habituel?
J'ai été surpris partout depuis le 7 octobre et je continue à l'être tous les jours. Je dirais pas ça. J'ai pas été surpris par l'émotion qu'ont suscité les massacres du 7 octobre et l'élan de solidarité envers Israël. Je pense que les opinions occidentales en réalité sont quand même assez fracturées. Oui. Entre des composantes qui soutiennent davantage Israël, des composantes qui soutiennent davantage les Palestiniens. Cela étant, plus le temps passe, plus les bombardements à Gaza durent, et en effet, plus le mouvement de solidarité envers les Palestiniens va probablement s'agréger. S'agissant des territoires palestiniens en eux-mêmes, moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est en effet l'élan d'enthousiasme et d'adhésion suscité par le Hamas au sein de la population palestinienne. Et pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, moi, en fait, ce que les gens disent, c'est qu'ils ont le sentiment, à Ramallah, par exemple, d'avoir accepté pendant plus de 20 ans l'idée que des négociations menées par le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne allaient permettre d'avancer sur le chemin de la paix tracé à Oslo en 1993. Et que il constate 30 ans après que,
Pacifique, ça, marche
que
pas.
Ça ne marche pas. C'est vrai que la population palestinienne a subi énormément de contraintes, d'humiliations pendant ces 30 ans, et que là, tout d'un coup, ils ont eu le sentiment de voir, d'avoir dans le Hamas un mouvement qui incarne une capacité de nouveau à prendre, à prendre les armes contre Israël. Et c'est vrai que c'est assez effrayant parce que il n'y a pas beaucoup de capacité à s'exprimer sur l'atrocité des massacres commis contre des civils. Ça s'efface derrière le besoin d'être défendu par les armes contre une oppression qui s'impose à eux depuis des décennies.
Alors parlons un peu de l'avenir, puisqu'on approche de la dernière partie de cette émission. Est-ce que le Hamas a un avenir d'abord, selon vous ?
Tout le peuple palestinien va avoir un avenir. Tout dépend des élections, justement. L'avenir, c'est alors.
Le Hamas n'est pas condamné pour vous par l'opération
le
militaire.
Le Hamas fait. Écoutez, c'est pas ma tasse de thé, Hamas. Mais le Hamas fait partie du visage politique palestinien. Ils sont là. C'est comme les frères musulmans.
C'est pas l'opération israélienne
en Égypte,
qui va les annihiler, selon vous.
C'est comme les frères musulmans en Égypte, c'est comme les frères musulmans dans beaucoup de pays arabes et étrangers. Et ça fait partie du peuple palestinien. Le point le plus important, c'est que depuis 1947, l'ONU a divisé la Palestine en deux. Depuis 1948, on a fait des trêves, des accords de cessez-le-feu. Et depuis 1947-1948 jusqu'à aujourd'hui, ce sont les autres qui essayent de décider pour nous. Pour l'amour de Dieu, c'est ni la présidence américaine, ni la présidence française, ni le monde qui doit décider pour nous. Laissons-nous faire des élections. Si vous voulez vraiment avoir, vraiment parler de vos valeurs de droit international et de droit humanitaire, laissez-nous faire des élections et il faut que la communauté internationale oblige Israël à appliquer le droit international qui nous permet de faire des élections à Jérusalem-Est. Et comme ça, le peuple palestinien décidera. Vous verrez bien les résultats. Jusqu'à maintenant, on décide pour nous. Le peuple palestinien a envie de décider.
Est-ce que, Johan, si le Hamas n'est pas condamné et survit à cette opération à Gaza et ailleurs d'ailleurs, il faut qu'Israël arrive à se réconcilier avec la notion que ça devient un interlocuteur au même titre que l'autorité palestinienne en Cisjordanie ? Est-ce qu'on va pouvoir réconcilier, amorcer un dialogue entre des forces aussi antagonistes ?
Là où je vais rejoindre Anouar Abouéché, nous avons besoin, là, à l'heure actuelle, on dit tout le temps qu'on n'a pas de partenaire pour la paix, on a fait tout ce qui est en notre pouvoir pour détruire ces partenaires pour la paix, pour diviser le camp palestinien, pour diviser la classe politique palestinienne. C'est une stratégie délibérée et volontaire, cette stratégie de division, de fragmentation, de séparation.
Vous parlez d'une stratégie israélienne.
Israélienne pour éviter justement le potentiel avènement d'un État palestinien indépendant. Donc c'est une question de volonté politique. Si vous voulez avoir un partenaire pour la paix, c'est pas forcément le partenaire qui va vous plaire, que vous allez avoir, mais laissez faire des élections, laissez faire une réconciliation palestinienne potentielle, et laissez se reconstituer un camp politique qui puisse avoir une certaine forme de représentativité de l'opinion publique palestinienne. Ouais. On n'a pas eu d'élections.
Mais réalistiquement, on en est très loin de cette hypothèse, non ?
Mais à l'heure actuelle, en fait, on a trois temporalités. On a court, moyen, long terme. Le court terme, là, on n'en est pas à la recomposition politique palestinienne. On en est à ramasser et compter les morts. On en est à même nommer les morts. On en est à aller chercher des enfants de 2 ans sous des décombres. On a besoin d'un cessez-le-feu. On a besoin de distribuer des médicaments. On a besoin de distribuer des bouteilles d'eau, de la nourriture. Là, la seule chose qui compte, c'est ça pour le moment. Discuter de ce qui va être possible potentiellement en termes politiques, en termes militaires, en termes stratégiques, ça viendra après, en fait. Oui. Là, je pense qu'il faut qu'on concentre notre attention sur la priorité. Et la priorité, c'est remettre l'humain au centre des débats. On a des débats qui sont, pour moi, stériles, qui nous qui nous empêche en fait de recontextualiser historiquement ce qui se passe, il faut remettre l'humain au centre des débats.
Karim Khatan, est-ce que vous, la perspective d'un État palestinien, de deux États vivant côte à côte, vous paraît encore réaliste, crédible ou...
Alors peut-être pour vous répondre, je vais d'abord revenir sur quelque chose que tu viens de dire. Effectivement, il faut quand même remarquer, c'est tout à fait remarquable, qu'on n'a pas prononcé le mot de massacre perpétré par Israël quand on parle de près de 15 000 morts. Quand on dit bombardement, on rend la chose très abstraite. C'est un massacre perpétré par l'armée israélienne. C'est très important. Massacre qui inclut, je ne sais plus combien, 40% je pense, de femmes et d'enfants, je crois. C'est quelque
en
chose plus, comme ça.
Non, ou même 60, plus. Près de 70%.
Voilà, oui, c'est 40% d'hommes. Du coup. C'est important de nommer les choses qui se passent. Il y a un massacre qui a eu lieu et qui peut-être reprendra à Gaza. C'est important, c'est le mot et massacre. Pour répondre à votre question, je pense qu'en fait, on ne peut pas penser un État, deux États, toutes ces questions, sans nommer, parce que pour moi, c'est important de nommer, je suis écrivain, encore une fois, je ne suis pas politiste, les réalités et les processus politiques et les structures qui sous-tendent la réalité actuelle en Israël-Palestine. Mm-hmm. On parle de trois choses, toujours la même chose, c'est pas nouveau, on n'invente rien de nouveau, il y a une occupation militaire, il y a une colonisation effrénée, parce qu'on parle beaucoup de cocotte minute, et moi-même j'utilise la métaphore de cocotte minute, mais elle me semble un tout petit peu... elle n'est pas très judicieuse dans la mesure où, en réalité, il n'y a pas un statu quo. Il y a l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, qui a toujours lieu, enfin, de tout temps, donc on n'était pas dans un truc un peu stable qui, oui, tout d'un coup, a explosé. Donc, on parle d'occupation, de colonisation, et évidemment d'apartheid. C'est aussi simple, entre guillemets simple que ça. On règle ces trois questions. Les solutions, elles émergeront. Moi, ça, j'y crois. Quelles seront ces solutions, je ne sais pas. Mais il faut régler ces questions qui sous-tendent tout ce dont on parle. Il faut que, je ne sais pas, la communauté internationale...
Ce que vous dites implique, en fait, quand le discours israélien, c'est de dire une partie, au moins la moitié de la solution est du côté palestinien, la solution aux trois points que vous évoquez, elle est entièrement du côté israélien.
Absolument. Elle est du côté de la communauté internationale qui doit demander, obliger Israël aussi à respecter le droit international. Donc, oui, évidemment, les Palestiniens vont faire quoi ? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les Palestiniens ? On n'a pas de quelconque marge de manœuvre, en réalité. Encore une fois, du fait de ces trois réalités politiques-là. Et quand je dis on n'a pas de marge de manœuvre, ce n'est pas du tout une stratégie pour déresponsabiliser les Palestiniens de leur destin politique. Je pense que c'est juste une réalité sur le terrain, en fait. C'est qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et que c'est à Israël, à la société israélienne, et surtout à la communauté internationale, parce que moi, par exemple, je m'intéresse, je pense, beaucoup plus, peut-être naïvement, à la force de la communauté internationale, plutôt que, par exemple, à la solidarité des États arabes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que une communauté globale peut faire advenir comme solution réelle. Mais pour ça, il faut démanteler l'apartheid, il faut qu'il n'y ait plus d'occupation, il faut qu'il y ait plus
d'occupation. Est-ce que ça veut dire que vous êtes très pessimiste ?
Non, aujourd'hui, oui, mais c'est un peu, mais dans l'absolu, pas forcément. Non.
D'accord. Non. Cyril Louis, sur l'avenir politique, celui du Hamas, celui de l'autorité, une solution à deux politiques possible, selon vous ?
Vaste question. Non, mais oui, en effet, c'est un peu... c'est à la fois normal de se poser la question maintenant, parce qu'on est réunis ici, et en même temps, un peu à contre-temps, compte tenu du fait que cette guerre se poursuit. Moi, je ne vois pas très bien comment Israël pourrait dialoguer avec le Hamas demain ou après-demain dans une forme constante. Il semble que ce à quoi la communauté internationale, le président Joe Biden pensent, ce serait de faire revenir une autorité palestinienne qu'il dit revitalisée à Gaza. Ça, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais en même temps, c'est vrai qu'on parle là d'un problème dont on connaît les termes de la solution depuis très longtemps, au moins depuis le milieu des années 90 ou à Oslo. Oui.
Mais leur mise en œuvre est altérée par précisément ce que vous décriviez, c'est-à-dire la poursuite de la colonisation qui rendent d'une solution politique plus compliquée.
Depuis les accords d'Oslo, oui, en effet, l'accélération de la colonisation... l'intensification de l'occupation militaire.
Trois fois plus, oui. Depuis 93.
On introduit et généralisait l'idée que cette solution des deux États était devenue impossible ou complètement dépouillé de sa raison d'être.
Un mot sur certaines voix aux États-Unis disent que Joe Biden doit présenter un plan de paix maintenant, en temps de guerre, un plan de paix taillé pour la guerre. Vous croyez à une intervention américaine à Noir Aboueïché? Vous pensez que ça serait utile?
Nous demandons aux Américains et aux Français et aux Européens d'appliquer le droit international, sans détour et sans essayer de nous faire de compromis qui ne peuvent pas durer longtemps. Par contre, permettez-moi deux minutes pour expliquer...
Reste deux minutes, alors vous en avez une et John en aura une autre.
Un État ou deux États, en fait, notre idéologie, c'est un État laïque et démocratique sur la totalité de Palestine à égalité de droits et de devoirs pour tout le monde, mais que ce soit les Israéliens, nos amis ou pas nos amis... que ce soit la communauté internationale, ne veulent pas un seul État. Il y a personne qui veut un seul État, sauf quelques philosophes de chez nous, des gens qui ont des avis. Et c'est pour ça que nous demandons deux États, l'un à côté de l'autre, en application de droit international. Voilà.
Maintenant,
nous rêvons toujours d'un État laïque et démocratique dans une, deux, trois générations.
Johan de Haas.
Yes.
Le mot de la fin.
Le mot de la fin.
Il nous reste deux minutes. On a encore le temps de faire un tour de table.
L'histoire est en marche, mais il faut également regarder l'histoire d'un point de vue global. C'est-à-dire qu'on est dans une ère où, effectivement, l'ère d'Oslo, le mirage d'Oslo des 30 ans de la période d'Oslo est révolu, hein, comme vous le disiez. Les Palestiniens n'y croient plus en cette espèce de rideau de fumée d'un projet national palestinien qui lui a été vendu avec les accords d'Oslo. L'autorité palestinienne fait partie dans les yeux des Palestiniens, de cette ère révolue. Les États-Unis et leur hégémonie également font partie de cette ère révolue. Et
là, quelle alternative ? S'il n'y a plus de perspective d'espoir dans une formule politique.
On a une perspective d'espoir, il faut être un peu patient. Pour moi, le monde est en train de vivre un glissement de puissance sur la scène internationale, avec la fin de l'hégémonie américaine, avec l'avènement et l'émergence d'un certain nombre de pays non occidentaux qui ont des positions par rapport à la Palestine qui sont extrêmement différentes des positions américaines. Nous avons...
Sur quel point, par exemple, très très vite ?
Sur la question de l'autodétermination palestinienne et de la légitimité de la Palestine à avoir son propre État et de la réalisation, de la reconnaissance du fait que le problème principal à l'heure actuelle qui empêche la création d'un État palestinien, c'est l'occupation, c'est la colonisation et c'est l'apartheid israélien. C'est extrêmement clairement dit par la Chine, notamment, qui a une position très proche de la Palestine depuis... c'est l'un des premiers pays à avoir reconnu l'État de Palestine, par exemple. Donc, on a l'avènement progressif de ces puissances sur la scène internationale qui sont en train de prendre des responsabilités, qui sont en train de prendre du poids dans les arènes multilatérales. Voyons ce que ça donnera dans les années à venir.
Alors, Karim Khatan, le mot de la fin, ce sera pour vous. Vous y croyez à ce nouvel ordre mondial qui favoriserait...
Y croire ou pas, je pense que c'est pas la question. Je pense que c'était plus
descriptif qu'autre chose. Non, mais en tant que Palestinien, vous-même...
Vraiment, je reviens...
Dans quoi placez-vous vos espoirs? Voilà.
Dans l'événement historique. Je pense qu'à un moment aussi... tout comme on peut entrer dans l'inimaginable, comme on est entré dans l'inimaginable, l'événement historique peut être autre chose aussi. Je ne sais pas c'est quoi cette autre chose, mais des choses peuvent émerger de la plus grande horreur. Je ne sais pas quoi, mais je pense que c'est de fait, ça se passe parfois. Et c'est un optimisme vraiment très prudent, parce que vraiment, je ne me sens pas bien aussi de dire optimisme après 15 minutes.
Un dernier mot,
je m'adresse aux membres du club de Figaro et je leur dis coupable, tous ceux qui ne travaillent pas sur une paix, pour une paix juste basée sur la justice. Merci.
Très bien. Et vous travaillez à cette paix alors ?
Absolument.
Chaque jour.
Sinon, on aura encore des violences et des massacres et des souffrances.
Bon, y avait-il la possibilité de finir sur une note plus optimiste ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. Merci à tous les quatre infiniment de vos points de vue. Merci à tous de nous avoir suivis. Pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine à tous.